Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, cette semaine, les femmes changent tout. 5 rencontres pour comprendre pourquoi la question féminine n'est pas une question parmi d'autres, n'est pas une question locale, n'est pas une question pour certains ou pour certaines, mais est une question qui politiquement, anthropologiquement, change tous les sujets, change tous les progrès en France et dans le monde aujourd'hui. Pour en parler avec Fabienne Brugère, professeure de philosophie à l'université Paris 8, qui publie un livre au titre « Emprunté à une autre philosophe, on ne naît pas femme, on le devient ». Bonsoir Fabienne Brugère.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là. Je me suis permis d'introduire votre livre, votre titre, en disant qu'il était emprunté à une autre philosophe. Vous avez repris la formule de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », pour en faire le titre de votre livre. Pourquoi cet emprunt ? Est-ce que c'était pour dire « Le combat continue » ou quelque chose comme ça ? Est-ce que c'était un clin d'œil ? Est-ce que c'était une reprise ?
En tout cas, l'idée c'était d'inaugurer quelque chose comme effectivement on pourrait dire le retour d'un moment Simone de Beauvoir à partir de la perspective qui me semble vraiment très forte chez Simone de Beauvoir, qui est celle finalement d'une description des vies des femmes. Mmh. Et d'une description des vies des femmes précisément de la naissance jusqu'à la vieillesse, avec toutes les situations de l'âge adulte, et de reprendre donc la possibilité qu'aurait la philosophie de discuter et de faire en tout cas de la notion de femme un concept. Mais quand la philosophie fait de la notion de femme un concept, forcément elle doit savoir comment. Et il me semble que chez Simone de Beauvoir, c'est particulièrement intéressant cette perspective de penser le concept de femme à travers les situations de vie des femmes.
Mais alors justement, donc il y a un aspect très concret de la naissance, l'idée que la féminité ou le fait d'être femme serait lié à des propriétés biologiques, qui est remplacée par un devenir ici, un devenir femme. Et en même temps, est-ce que vous reprendriez quand même cette idée, Fabienne Brugère, qu'on devient femme, que finalement le but est de devenir femme, ou est-ce que c'est de devenir soi à travers des expériences que vous racontez? Votre livre est aussi à la première personne. Est-ce que c'est devenir femme ou est-ce que c'est devenir Fabienne Brugère, le sujet du livre? Très, très concrètement, Fabienne Brugère. Est-ce que vous acceptez encore l'idée que devenir Fabienne Brugère, c'est une manière de devenir femme?
En tout cas, je pense que dans la philosophie, il y a toujours une partie autobiographique. Là-dessus, je serais assez proche des thèses de Stanley Cavell dans Un ton pour la philosophie, mm-hmm. moment où il écrit qu'il y a vraiment une part autobiographique.
Le philosophe aussi du récit, du cinéma,
voilà,
du devenir soi-même.
Voilà, et qu'il y a toujours des récits, qu'il y a toujours des récits des autres, mais aussi des récits de soi, que tout cela se croise. Et donc moi, je crois beaucoup à cette définition-là de la philosophie. Et forcément, quand il s'agit en plus d'un sujet ou d'un concept comme celui de femme et qu'on est soi-même une femme, eh bien forcément, il y a des voix qui se mélangent.
Oui, parce que quand même, il faut le dire dès maintenant, on va y revenir tout au long de la discussion, mais ça n'est pas un livre comme vos précédents livres. Vous aviez déjà écrit un livre sur la question, au fond, qui s'appelait « Le sexe de la sollicitude », qui était lié à l'émergence de la question du soin, de la sollicitude, de ce qu'on a appelé le care en France aussi, et à la question du féminisme dans cette question-là. Mais là, ce dernier livre, c'est en effet aussi une autobiographie à la première personne de Fabienne Brugère, et en même temps, le titre, c'est « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc, il y a quand même l'idée que vous écrivez votre autobiographie sous le signe du devenir femme, Fabienne Brugère.
En fait,
je vous pousse d'abord dans le lien entre la forme du livre et le thème.
Parce que forcément, quand on est une femme, se pose la question de ce que c'est que devenir femme. Et cette question de ce que c'est que devenir femme, je l'ai posée dans le livre, non pas seulement à partir, je dirais, de ma propre histoire, mais à partir de ce qui, de mon point de vue, concerne toutes les femmes, c'est-à-dire les normes. Toutes ces normes auxquelles on assigne les femmes à travers les âges de la vie et qui font que, d'un côté, de devenir femme, c'est un devenir dans les normes.
C'est ça. Donc, le but, finalement, c'est pas, il n'y a pas une norme a priori qu'il faut devenir. Justement, c'est le contraire. Il faut devenir soi-même, c'est traverser à tous les âges de la vie un problème avec la norme féminine, avec ce que c'est qu'être une femme.
En tout cas, avec les normes qui font les femmes, parce que je me mettrai toujours, justement, au pluriel.
Au pluriel.
Et la question, c'est de savoir après, comment on s'arrange plus ou moins avec ces normes. C'est aussi d'analyser les situations à travers le monde, parce que précisément les prescriptions normatives, je dirais, sont plus ou moins sauvages. Et de voir comment...
Sauvage, vous voulez dire qu'elles varient selon les lieux.
Et je veux dire qu'il y a aussi, des situations, il y a aussi des régions du monde où les filles, les femmes, eh bien, n'ont pas tellement la possibilité de pouvoir s'arranger avec les normes, de pouvoir jouer avec les normes et qu'elles vivent des drames liés à des formes de domination masculine particulièrement sauvage. Je prends l'exemple à la naissance, sur la question de la naissance des filles manquantes en Inde et en Chine principalement, qui sont quand même les deux pays du monde les plus peuplés. Donc en termes de vision du monde, c'est quand même important, le fait que précisément on utilise dans ces pays toutes les méthodes pour ne pas avoir de filles, pour que les filles ne naissent pas, et qu'on utilise même les progrès finalement les plus récents des sciences au service finalement de la naissance des garçons. Il me semble que ça c'est un élément qui pose quelque chose de fort quant à ce qu'est devenir femme. Devenir femme, c'est aussi déjà assumer une vulnérabilité qui fait que précisément dès la naissance, dans beaucoup d'endroits,
même
dans
avant
le monde,
la naissance, en l'occurrence.
Même avant la naissance, eh bien les femmes sont beaucoup plus fragiles que les hommes précisément.
Oui, mais revenons à la manière dont vous abordez tous ces sujets, Fabienne Brugère. Il y a cette question qu'on pourrait prendre comme Amartya Sen l'avait fait, le grand économiste et philosophe indien, qui avait montré, par les chiffres au fond, que statistiquement, il devrait y avoir en Inde et en Chine autant de femmes qu'ailleurs. Or, il y en a beaucoup moins, donc il y a eu une intervention sociale. Vous pourriez prendre ça, comme vous l'avez fait ailleurs, par des thèses de philosophie politique. La manière dont vous rejoignez ces questions, dont on voit qu'elles traversent tous les problèmes, la manière dont vous prenez ces questions, c'est à la fois un récit à la première personne et la façon d'être femme, je dirais, en France, dans notre génération, puisque nous partageons aussi la même date de naissance, donc voilà, dans cette génération, et telle qu'on la vit en France. Et c'est depuis cette expérience que vous dites ordinaire, à la fois personnelle et ordinaire, que vous rejoignez les questions du monde. Vous ne faites pas une étude de sociologie de la place des femmes dans le monde. Les cas indiens, chinois arrivent depuis votre expérience française, ordinaire.
Tout à fait, Frédéric Vance, parce que le but est de déployer, alors pour le coup, quelque chose que j'avais déjà déployé dans le travail sur l'éthique du care, à savoir le projet d'un féminisme ordinaire. Mm-hmm. Le projet d'un féminisme ordinaire suppose précisément d'enraciner le concept de femme dans sa propre expérience, dans sa propre situation, pour justement repartir de cette situation, pouvoir aussi la confronter à d'autres situations, pour pouvoir aussi tenir le fait qu'il y a des voix des femmes, mmh, et que la mienne en est une, qu'il y en a d'autres, et que c'est à partir de ces voix des femmes...
Voix VOIX et VOIES,
voilà,
probablement.
Voilà, c'est à partir de ces voix des femmes que l'on peut construire un projet féministe.
Mais alors, quand vous dites féminisme ordinaire, Fabienne Brugère, et en même temps, le concept de femme, c'est une expression assez frappante. Ça veut dire qu'au fond, chacune, dans le mot féminin, pour les hommes, on verra après si ça se pose aussi, vit une vie ordinaire dans le lieu où il y a cet ordinaire, mais en même temps se confronte à une norme qui est le concept de femme. Et c'est cette tension entre l'ordinaire et le normatif, entre le quotidien qui peut paraître banal des femmes dans la France par opposition à peut-être des situations qu'on croit plus extrêmes, qui vous fait vous confronter avec la norme et pouvoir comprendre ce qui se passe partout.
Alors, il y a cet élément-là qui permet toujours de situer la question du sujet par rapport à la norme, et donc les formes à la fois d'assujettissement et les formes aussi d'écart par rapport à la norme. Mais il y a aussi un autre point de départ qui est un point de départ lié à mes lectures. À mes lectures, par exemple, d'un côté de Virginie Despentes, que l'on prenne le King Kong Theory ou d'autres livres, aux lectures que j'ai pu faire.
Une littérature féministe un peu coup de poing malgré tout.
La lecture aussi, par exemple, de Catherine Millet sur sa vie sexuelle, les films de Catherine Breillat, et on pourrait citer bien d'autres références. Ces références-là, elles situent toujours les femmes. Et en l'occurrence, dans le cas de Virginie Despentes, la possibilité du féminisme du côté soit d'héroïne, soit d'anti-héroïne, mais toujours finalement des femmes extraordinaires.
Dans l'extrême,
des femmes qui vraiment ne sont pas comme les autres précisément. Mmh. Et donc ça m'a toujours en même temps fascinée et en même temps gênée. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il faut aussi pouvoir déployer d'autres points de vue qui sont des points de vue beaucoup plus modestes, qui ont sans doute à voir avec le fait que fondamentalement, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'égalité des femmes et des hommes, qu'il y aura beaucoup plus de liberté et d'émancipation des femmes le jour où, par exemple, on partagera complètement dans un couple les tâches de soins, le jour précisément où les femmes pourront tout autant se consacrer autant au travail que les hommes, le jour où précisément de l'autre côté on n'assignera pas non plus forcément les femmes à la question de la reproduction. Mais je pense que toutes ces questions-là, qui sont des questions très ordinaires, sont en même temps des questions essentielles pour constituer un projet féministe.
Mais alors justement, revenons encore sur la façon dont vous écrivez concrètement dans le livre, tout ce que vous décrivez là de façon très très forte aussi, mais d'une autre façon, disons d'une façon plus théorique dans le livre. Donc ça prend la forme d'un récit qui traverse les âges de la vie d'une femme, on pourrait dire. Ça aurait pu être d'ailleurs le titre du livre, les âges de la vie d'une femme, époque de la vie d'une femme. Et au fond, c'est à travers ces âges de la vie qu'on rencontre tous les problèmes et qui traversent nos vies, et le fait que justement la question des femmes change tout. Alors, pour reprendre le titre de Simone, emprunté à Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Vous dites au fond que ce devenir femme qui est Simone de Beauvoir renvoyait à la culture par opposition à la nature, il est là dès la naissance finalement. Vous êtes née femme, vous avez été perçue à votre naissance, non pas comme un être humain ou juste un enfant, mais on dit, tiens, j'ai une fille. Enfin, vous dites qu'en 64, quand même, encore, et sans doute c'est encore vrai aujourd'hui, on n'a pas des enfants, on a des garçons ou des filles, Fabienne Brugère. Donc dès la naissance, il y a cette norme.
Parce qu'en France, tout simplement, on est, du point de vue de l'état civil, femme ou homme. Et il n'y a pas de possibilité de penser une autre catégorie.
Mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que ce que je disais, on est fille ou garçon? C'est-à-dire, il y a aussi l'imaginaire des parents.
Bien sûr.
À qui on annonce c'est un garçon, c'est une fille.
Non seulement, de toute façon, il y a l'état civil qui positionne.
Il catégorise, mais est-ce qu'il hiérarchise? Il hiérarchise pas encore.
Non, mais bien évidemment, à côté, il y a tout un imaginaire, il y a tout un milieu familial, il y a toute une société qui, elle, précisément, se rapporte toujours aux êtres humains, y compris de manière inconsciente, par le biais du masculin et du féminin. Ce qui n'empêche pas que, bien évidemment, nous sommes toutes et tous aussi des individus. Mais c'est pas le même niveau de discours. Et ce sur quoi je voulais surtout insister, c'était peut-être un point qui renvoyait aussi à ma formation philosophique. Mm-hmm. Parce que finalement, notre formation philosophique nous a longtemps appris que le sujet était sujet avant même d'être sexué, et que la question finalement de la sexuation,
un pur esprit, un jeu,
voilà,
une pensée,
elle n'était pas aussi importante. Mm-hmm. Bien sûr, ça c'est des choses que l'on retrouve dès la métaphysique cartésienne, mais ce sont des choses que l'on retrouve encore chez Hannah Arendt au moment où elle pense la naissance, quand elle pense la naissance, elle la pense effectivement d'une très belle manière.
Ah bah elle fait de la naissance le phénomène premier de l'être humain, effectivement.
Voilà, comme même le surgissement d'une singularité. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Mais
c'est l'irruption de la nouveauté en général dans le monde.
C'est ça. Mais le problème, c'est qu'en même temps, ce n'est pas que ça, la naissance. La naissance, c'est aussi déjà le début d'un partage entre les filles et les garçons. C'est aussi le surgissement d'un être sexué.
Alors, soyons très concrets, Fabienne Brugère, je vais être très concret, je suis né la même année que vous. Nous sommes devenus tous les deux professeurs de philosophie, nous sommes devant dans l'université, nous partageons le même micro ce soir. Et en même temps, évidemment, il ne faut pas être naïf. Quand on a annoncé à mes parents c'est un garçon, quand on a annoncé au vôtre c'est une fille, ça a changé quelque chose. Comment est-ce que vous décririez l'effet de ces deux énoncés sur... Alors vous le décrivez très concrètement dans votre livre. Vous parlez de vos parents, du milieu social, de leur attitude vis-à-vis de tout ça. Donc c'est une fille en 1964.
C'est une fille en 1964 déjà. C'est quelque chose d'intéressant à rappeler. C'est encore un moment pour un an où la femme, en tout cas, a besoin de l'autorisation de son mari pour travailler.
Ça a changé seulement en 1965.
65. Donc ça, c'est déjà intéressant de le rappeler.
Donc, nos mères n'ont pas les
moyens de travailler sans l'autorisation de leur mari. Ensuite, deuxième chose.
Vous croyez que c'était appliqué? Pardon de vous interrompre, Fabienne Brugère. J'imagine mal, ma mère, ayant demandé à mon père l'autorisation de la vôtre, l'avait fait, vous croyez?
En fait, j'ai jamais vérifié ça auprès d'elle, mais en tout cas, c'était
la norme, justement.
C'était la norme et c'était surtout la loi.
Ouais.
Donc, à partir du moment où c'est une loi, ça peut être appliqué.
Ça peut être utilisé si un mari, tout à coup, en tout cas, veut s'en servir.
Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, du point de vue de ce qu'est un imaginaire, du point de vue de ce qu'on projette sur une fille et un garçon, quand on sait qu'en plus, une famille, c'est pas seulement des parents, c'est aussi des oncles et des tantes, c'est des grands-parents, et puis il y a aussi autour des amis. Il est évident que encore aujourd'hui, l'imaginaire que l'on associe aux filles n'est pas le même que l'imaginaire que l'on associe aux garçons. Et d'ailleurs, ça se retrouve par exemple dans les jouets. C'est de plus en plus frappant de voir combien les rayons de jouets sont complètement partagés entre les jouets pour filles et les jouets pour garçons, y compris pour des choses comme les Playmobil.
Alors vous êtes déjà venu aux jouets et aux jeux, Fabienne Brugère, alors que dans votre livre, c'est le deuxième chapitre, c'est dans Grandir, que vous avez une étude des jeux, qui est d'ailleurs assez intéressante, parce qu'effectivement, vous montrez dans ce chapitre, il y a quelque chose d'inattendu dans ce chapitre, c'est qu'en fait, c'est la petite fille que vous étiez, qui voulait avoir joué le jeu féminin, on pourrait dire, JEU. Vous dites que vous vouliez être majorette. C'est un passage très très fort, je trouve, du livre. Et là, par contre, ce sont vos parents qui résistent à votre jeu avec ce jeu, finalement, qui ne veulent pas que vous soyez trop ancré dans le féminin.
Oui, alors ça, c'est un moment particulièrement perturbant dans mon enfance et auquel j'ai souvent réfléchi, qui est un moment effectivement où je veux absolument devenir majorette. Je reviens plusieurs fois là-dessus et à chaque fois je suis confrontée à un non catégorique.
Tu ne seras pas majorette, ma fille.
De mes parents, tu ne seras pas majorette. Et effectivement, ça me prive de ce que j'imaginais alors comme étant l'une des formes de la féminité qui m'est à ce moment-là interdite.
Mais ce qui est très beau, c'est que vous l'assumez aujourd'hui. Vous pourriez dire, au fond, en termes sartriens ou Simone de Beauvoirien, si j'ose dire, que vous étiez aliénée à des normes sociales qui vous faisaient désirer d'être majorette et que vos parents avaient un rôle émancipateur. Mais au fond, votre jeu sur les normes est plus subtil, plus compliqué. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas l'inverse, mais vous pensez quand même que dans ce désir d'être majorette, il y avait quelque chose à défendre, pas seulement une aliénation.
Oui, je crois qu'il y avait la perspective d'un rêve d'un moment, bon, qui a conduit à une frustration. Sans doute que la frustration est un élément intéressant dans l'éducation. Mais ce que je défends effectivement dans cette partie-là du livre, en tout cas pour certains pays comme la France et comme d'autres, c'est qu'en même temps l'enfance, dans certaines situations, c'est quand même aussi la possibilité d'un certain jeu sur les normes. Parce que finalement, l'enfance, c'est aussi des sortes de négociations avec un milieu. Mm-hmm. C'est aussi précisément le moment où, comme on joue, eh bien, on n'est pas directement et frontalement dans les rapports de pouvoir.
Mais
et
qu'on
le
peut...
jeu autorise des écarts qu'on ne s'autorise sans doute pas quand on n'est pas dans le jeu.
Alors en même temps, Fabienne Brugère, en disant ça, vous, je ne sais pas que vous courez un risque, c'est qu'il va y avoir une discussion critique. Vous parlez vous-même de normes de genre, vous vous référez à cette notion qui est une notion critique, pour critiquer ces normes telles qu'elles s'appliquent dans nos vies. Et finalement, le désir d'être majorette, est-ce qu'il est si libre que ça de jouer? Est-ce qu'il ne s'impose pas tout de suite quelque chose d'extrême? Est-ce que la majorette, la pom-pom girl, ça n'est pas aujourd'hui ce que critiquent beaucoup comme étant justement quand même quelque chose dont on ne peut pas sortir, qu'on désire, et sans savoir vraiment ce qu'on désire et qui peut après nous piéger?
Enfin, de toute façon, en ce qui concerne les majorettes, c'est plus quelque chose de très à la mode.
Non, mais c'est quelque chose de très symbolique malgré tout. Si la pom-pom girl reste, par exemple aux États-Unis, dans le débat féministe, plutôt un repoussoir, c'est-à-dire que c'est plutôt la pom-pom girl, c'est une réification de la femme.
Je crois qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part, si vous voulez, l'objet sociologique, mm-hmm. et si on prend les choses d'un point de vue sociologique, et on doit le faire aussi, à ce moment-là, bien sûr, on peut avoir tout à fait, et on doit avoir tout à fait la lecture que vous faites de la pom-pom girl comme finalement... cet objet que l'on met sur les stades de football mm-hmm. américain
avant que les hommes eux arrivent
avant le spectacle, le vrai spectacle, ouais. comme finalement en quelque sorte ce qui vient avant le spectacle, mais je crois qu'après il y a autre chose qui est finalement le vécu, enfin qui est finalement la trajectoire d'une vie, et le fait bien évidemment que quand on a 5 ou 6 ans, eh bien on n'a pas fait sa trajectoire. On n'a pas fait sa trajectoire et finalement, on n'est pas devenu une femme. D'ailleurs, je reviendrai sur le devenir femme parce que et c'est ça que je reprends en revanche à Simone de Beauvoir, il y a deux choses dans le devenir femme. Il y a en fait le fait effectivement de devenir cette femme aliénée dans les normes, mais il y a aussi le fait justement de pouvoir se libérer et de devenir une femme libérée. Voilà ce qui est la fin du deuxième sexe. Et donc il y a un parcours. Et bien évidemment que c'est un peu aussi d'ironie que j'introduis dans le texte à ce moment-là. Il est bien évident que sans doute que si mes filles m'avaient demandé de devenir majorette à 5 ans, je n'aurais pas été partante.
C'est pourtant intéressant, Fabienne Brugère, on va suivre ce devenir dans la suite de votre livre. C'est intéressant de savoir qu'on peut à la fois avoir voulu être majorette et devenir une théoricienne critique de ces questions aujourd'hui. Je crois qu'il y a un enjeu fondamental parce que ça, justement, ça n'est pas tout ou rien, en tout cas dans certaines sociétés et avec certaines variables dans ce jeu ordinaire. Mais pour jalonner cette conversation qui passe très vite, vous nous avez apporté et proposé un morceau de musique très particulier, Fabienne Brugère.
this morning selfishly how we fail, and I feel like I do. It's only you who can tell me apart, and it's only
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, les femmes changent tout. Ce soir avec Fabienne Brugère qui nous montre comment le fait d'être ou plutôt de devenir une femme dans une vie ordinaire traverse toutes les questions de la société. On va y revenir, Fabienne Brugère, mais d'abord le morceau qu'on vient d'entendre, c'est une version justement, un jeu avec une chanson, un thème très connu, Only You. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette variation-là, Fabienne Brugère ?
Parce que c'est une voix de femme, celle de la chanteuse de Portishead, qui là finalement dit quelque chose sur l'amour, à la fois finalement la sa voix dit à la fois la force et la fragilité du rapport amoureux à l'autre. Et précisément, pour moi, c'est extrêmement beau, sans compter que cette voix à ce moment-là renvoie aussi à la voix de Billie Holiday et qu'il y a quelque chose là qui se joue à la fois de fort et de fragile. Et je crois que la vie, c'est aussi ça, c'est quelque chose de fort et de fragile, et que la vie des femmes, c'est précisément cela.
C'est une voix féminine qui en même temps joue avec les codes du féminin. Vous dites fort et fragile parce qu'il faut éviter d'assigner la force au masculin, la faiblesse au féminin. Vous, à travers les âges de votre vie, puisque vous la racontez étape par étape, vous traversez toutes les normes sociales, nous montrant que cette question les travaille toutes. Il y a la question de la beauté dans le chapitre « Aimer ». Être une femme, c'est se confronter à la norme de la beauté. Il y a la question du travail, où vous dites qu'une femme est hyper normalisée, on doit en rajouter. Il y a la question du soin, où la femme avec la maternité est assignée. Comment est-ce que vous avez disposé toutes ces normes au long des âges de la vie dans ce livre pour en faire des moyens d'accès à la question féminine ou féministe aujourd'hui, Fabienne Brugère?
L'idée, c'était de reconstruire vraiment un récit des vies, donc des femmes ordinaires, à partir aussi du lieu où je vis en France, entre
lieux,
le 20e et le 20e et le 21e siècle.
Voilà.
J'ai voulu à partir de là montrer comment, selon les âges de la vie, on est plus ou moins assigné à certaines normes.
Chaque âge a sa norme, son défi à relever, cette injonction sociale à affronter.
Exactement, cette idée, l'idée c'est que chaque âge a son injonction à affronter. 20 ans, c'est la beauté, c'est l'amour, avec la possibilité, en tout cas, cet idéal d'un amour pur, que d'ailleurs je connecte avec un texte de Bourdieu que j'ai toujours trouvé fascinant.
Oui, le sociologue le plus critique.
Voilà,
vous dites
au milieu,
quand même, il a aussi une relation
c'est ça,
à l'amour.
C'est incroyable. Au milieu de la domination masculine, il fait un post-scriptum sur l'amour pur, dont il dit qu'il serait né finalement au 19e siècle, la rencontre amoureuse, et le fait que là peut se jouer une relation en dehors précisément de la domination masculine.
Alors c'est une forme de l'amour pur, Fabienne Brugère, qui n'est pas l'amour platonique ou platonicien, qui n'est pas l'amour des courtois, des troubadours, qui est l'amour quand même dans la société moderne d'un homme et d'une femme, au singulier
aussi. De deux individus qui se rencontrent, qui s'aiment. On peut parler de coup de foudre, on peut parler de passion, enfin tout ce que l'on connaît et tout ce dont on fait un mythe aussi autour de l'amour.
Alors ce qui est frappant dans votre analyse, et encore maintenant dans ce que vous venez de dire de Bourdieu, dans votre récit, c'est qu'on a l'impression que dans chaque chapitre, voilà, vous rencontrez des normes qui peuvent être très violentes, l'injonction à être belle, l'injonction, et On se demandera quand même si pour les hommes, il n'y a pas des injonctions aussi, malgré tout. L'injonction à être belle, l'injonction à faire ses preuves au travail, malgré la... Justement, je dis malgré parce que c'est ça la norme, la maternité, etc. Mais en même temps, à chaque fois, vous vous dites aussi, c'est possible, et j'ai vécu aussi l'amour pur, j'ai réussi à être professeur, j'ai réussi à... Voilà, et comment est-ce que vous... Qu'est-ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est l'obstacle de la norme? C'est le travail critique?
Alors,
ou bien c'est l'expérience,
je
le jeu individuel?
Je pense pas que je dise
j'ai réussi. Il y a un petit peu ça qui se dégage.
Mais je pense pas, je pense qu'en revanche, je dis, eh bien, forcément, j'ai dû faire
j'ai
avec cette norme.
Ça.
Bien sûr, j'ai affronté ces normes, tout comme d'autres femmes les affrontent également. Et je dis quand même, par exemple, en ce qui concerne toute l'analyse des 30 ans, à partir de la figure du travail...
30 ans, c'est le travail, voilà.
Voilà, et l'association quand même aujourd'hui entre le travail et puis la projection d'une société quand même néolibérale qui d'ailleurs crée certaines normes de travail et qui là concerne à la fois les hommes et les femmes. Je dis qu'en même temps, elles n'ont pas tout à fait les mêmes applications du côté des hommes et des femmes, que le modèle néolibéral, il a justement été beaucoup plus fait pour des représentations masculines et qu'il est beaucoup plus
encore plus dur avec les femmes.
Voilà, à penser du côté des femmes, donc il est beaucoup
double
plus
peine,
dur
en fait.
Avec les femmes. Et en même temps, chaque fois, je pense aussi les figures de l'exclusion. Et ça, je les pense de toute façon, là, pour le coup, en dehors de mon expérience à moi, dont je ne sais pas trop bien ce qui a pu être réussi et ce qui a pu être raté. Je pense, par exemple, justement, ce que j'appelle, sur les 30 ans, les femmes improductives, c'est-à-dire soit celles qui, précisément, dans nos sociétés, sont condamnées au chômage, soit celles qui, dans d'autres sociétés, parce que ça existe encore dans un certain nombre de pays, n'ont pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, et dans certains pays c'est vraiment appliqué. Donc je navigue entre guillemets à travers les normes, à travers les voix des femmes et puis à travers les situations des femmes dans le monde qui, je le rappelle, ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre.
Alors justement, dans chaque chapitre, c'est vrai que depuis c'est votre expérience dans la France, la fin du XXe siècle et du début du XXIe, vous ouvrez sur des situations qui sont critiques dans beaucoup d'endroits, qui sont terribles. Mais est-ce que vous n'êtes pas frappé, Fabienne Brugère, même depuis vos précédents ouvrages sur la question et dans celui-ci encore, enfin dans le contexte de celui-ci, d'une régression possible, même en France, en tout cas au niveau idéologique. On a l'impression que voilà, votre travail s'inscrit dans une continuité, en apparence, Simone de Beauvoir, vos premiers livres, les contextes, mais on assiste aussi aujourd'hui à une régression terrible. Il y a des anti-féministes acharnés aujourd'hui, y compris en France, on caricature les théories du genre. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait des retours de manivelles, de violences anti-féministes en France aujourd'hui? Je dis bien en France, ailleurs dans le monde, mais en France aussi.
Mais je crois que, tout d'abord, que forcément nos sociétés sont de plus en plus des sociétés d'individus et donc des sociétés dépourvues de transcendance. Et quand des sociétés sont dépourvues de transcendance, eh bien forcément, on essaie, ou un certain nombre en tout cas de personnes, d'institutions, de collectifs, essaie de recréer des identités, essaie de se donner en quelque sorte des formes de stabilité. Et donc, quand tout semble en quelque sorte disparaître du point de vue des certitudes, du point de vue aussi de la possibilité d'une transcendance, et ça je pense au très beau titre de livre de Robert Castel, La montée des incertitudes, nous sommes bien en temps et de plus en plus dans des temps de montée des incertitudes, et bien à ce moment-là...
On recrée des normes, on redurcit...
On recrée des normes, on essaie de pouvoir les incruster dans dans une sorte de nature et on dit à ce moment-là que s'il y a bien quelque chose qui renvoie à la nature, on n'ose plus le dire sur la race, mais on ose encore le dire.
Ça revient aussi malgré tout.
Même ça revient, mais je crois qu'on ose encore plus le dire en termes finalement de différence des sexes. De telle sorte que finalement ce qui semble apparaître généralement, à savoir que les hommes et les femmes corporellement ne sont pas pareils, eh bien ça veut dire que leur vie sociale ne peut pas être non plus pareille. Et on essaie de tenir ça parce que ce serait une manière de renouer avec une forme d'origine illusoire à mon sens, mais on tient à ça du coup.
En même temps, Fabienne Brugère, ce que vous opposez à ça, votre diagnostic, c'est sûr, dit une partie de ce champ de force aujourd'hui. Ce que vous opposez à ça, ça n'est justement pas des purs individus, au fond, même s'il y a une forme de libération. Et Simone de Beauvoir, Sartre, pensait avant tout à la liberté individuelle. Ce que vous opposez à ce retour des normes, c'est plutôt des individus, mais pas purs, qui jouent avec les normes, c'est-à-dire qui deviennent femmes chacune ou à leur manière. Il y a peut-être aussi du féminin dans le masculin, il va falloir en dire un mot des hommes. Est-ce que c'est pas ça le cœur de votre thèse? C'est-à-dire que face à ces normes qui sont oppressantes ou opprimantes, il n'y a pas de purs individus parfaitement libres, c'est ça votre différence avec Simone de Beauvoir peut-être aussi. Il y a un jeu critique avec ces normes.
Mais, c'est-à-dire qu'en la matière... En ce qui concerne déjà finalement ce qu'on peut appeler une théorie de la domination, une théorie du pouvoir, je serais plutôt foucauldienne, c'est-à-dire que je pense...
Foucauldienne, adjectif qui dérive de Foucault, Michel.
Voilà, de Michel Foucault. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, il n'y a pas de manière très simple des dominés d'un côté et des dominants de l'autre, que les rapports de pouvoir décident toujours des procédures d'assujettissement complexes, que de toute façon nous sommes tous plus ou moins assujettis. Ça ne veut pas dire que certains, ce qui n'empêche pas que certains le sont plus que d'autres.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rapport pouvoir-liberté. Il y a quand même, face au pouvoir, il y a de la résistance.
Face au pouvoir, il y a des résistances que l'on peut constituer. Il y a des écarts que l'on peut constituer. Il y a des ruses que l'on peut constituer. Et ça doit jouer aussi dans le féminisme. Alors, bien évidemment, je redis là-dessus que c'est plus facile dans certaines situations... bien évidemment que dans d'autres. Et sans doute, nous sommes quand même à un moment de notre histoire où précisément un certain nombre de jeux avec les normes peuvent quand même se déployer, mais ce qui fait qu'en face, précisément, il y a de fortes réactions à ces possibilités de déployer des libertés par rapport aux normes.
Face à ces mille manières d'être une femme ou d'être féminine ou de ne pas l'être ou de l'être plus ou moins. Mais Fabienne Brugère, vous parliez justement du jeu avec les normes. Est-ce qu'à un moment, quand même, la loi ne doit pas intervenir? On a parlé de cette loi qui a été abolie en 65, qui fait que nos mères n'ont plus eu besoin de demander l'autorisation à leur mari pour travailler. À un moment, quand même, pour que ces normes évoluent, il faut quand même des lois. Qu'est-ce que vous pensez de la question féminine dans le contexte démocratique aujourd'hui, quand on dit les femmes changent tout? Dans mon idée, c'est aussi les femmes changent le monde. La question féminine est la réelle avancée démocratique aujourd'hui. Est-ce que vous vous battez aussi pour des transformations de la loi, Fabienne Brugère?
Les lois sont bien évidemment fondamentales. Alors je crois qu'en France, il y a quand même un certain nombre de lois qui garantissent les droits des femmes. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, ces lois, en fait, elles ne sont pas appliquées. Si on prend, par exemple, l'égalité salariale, il y a quand même une loi qui a été pensée à l'époque d'Yvette Roudy en termes d'égalité salariale avec des dispositions précises.
Des sanctions.
Des sanctions pensées, etc. Et en fait, cette égalité salariale, elle n'existe toujours pas.
Donc c'est encore un combat politique.
C'est encore un combat
politique. C'est pas seulement un combat individuel de ruse avec
dire...
le pouvoir,
ah
c'est
oui,
un combat
non,
collectif
sûr, c'est
et
un, c'est
et politique.
Un combat collectif, mais ça veut dire que les textes de loi ne suffisent pas et qu'il faut aussi d'autres types de mesures. Par exemple, il me semble que l'idée qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de discussions sur les critères, l'idée de rendre public finalement les entreprises qui privilégient l'égalité femmes-hommes dans les salaires, c'est quelque chose précisément d'intéressant. Et il faut pouvoir augmenter ce type de mesure. Après, il y a deux points de vue dans le féminisme et il faut toujours faire jouer les deux, parce que certains ou certaines ne font jouer qu'un. Il y a le point de vue de la société telle qu'elle est. Et moi, je continue à penser que dans la société telle qu'elle est, les femmes ne sont pas forcément meilleures que les hommes, mais il n'y a pas de raison que les femmes n'occupent pas les mêmes places que les hommes.
Qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs aux mêmes endroits.
Voilà, mais que... Puisque l'humanité est composée d'hommes et de femmes, dans une société, il n'y a pas de raison que les femmes n'occupent pas les mêmes postes que les hommes. Puis après, il y a un deuxième point de vue dans le féminisme qui est important, qui surgit à la fin du texte avec la notion d'émancipation. Eh bien, c'est la possibilité à travers le féminisme de penser une autre société, une société meilleure, autre chose que la société capitalisme. Mais il faut les deux, à mon avis, il faut les deux types. De féminisme.
Il faut à la fois le sujet local, comme vous dites, un féminisme local, et puis en même temps le prendre comme un outil global, un outil de démocratisation d'ensemble.
Un outil global de pensée, de reconceptualisation justement de la démocratie, de reconceptualisation du travail aussi, de reconceptualisation des différences entre la sphère privée et la sphère publique.
Et dans la sphère privée, pour y revenir, enfin se priver, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais plutôt intime, disons Fabienne Brugère, on est déjà presque au terme de notre conversation, votre livre suit tous les âges de la vie, il y a à la fin quelque chose de très frappant sur la mort elle-même. Vous dites que finalement on réserve aux hommes même l'idée d'une mort héroïque, l'idée d'affronter la mort serait un privilège masculin. Il y a des thèmes sans doute, vous les évoquez pas forcément, mais qui, c'est vrai, cantonne les femmes à certains rôles face à la mort. La jeune fille et la mort d'amour, la mort romantique, Ophélie mourant de chagrin. Au fond, ça va jusque-là, la question féminine, Fabienne Brugère, ça va jusqu'à déposséder les femmes d'un certain rapport à la mort.
Je crois déjà qu'un certain nombre de situations sociales permettent de penser une invisibilité des femmes à partir de 50 ans, dans la vieillesse également.
Ouais,
enfin, il y a beaucoup d'analyses de toute façon qui vont dans ce sens. Mais il y a autre chose. Je suis revenue sur la figure du sage. Et là, c'est parti en fait là d'une interrogation sur la vieillesse et sur le fait précisément.
On oublie d'ailleurs que Simone de Beauvoir, mais vous le rappelez, a aussi écrit ce grand livre, La vieillesse.
Oui, Simone de Beauvoir, je la pense dans ce dialogue avec elle, à travers à la fois le deuxième sexe et livre sur la vieillesse, où elle dit bien que la vieillesse est comme une espèce étrangère. C'est comme une espèce étrangère, mais en même temps, je me suis dit, quand on approche de la mort comme ça, eh bien, oui, la situation des hommes et des femmes n'est pas tout à fait la même. Ne serait-ce que parce que effectivement, et là j'ai repensé forcément à toute la tradition philosophique, l'homme en fin de vie, il est aussi pensé comme le sage.
Le sage.
Et c'est le sage. Et la femme, elle va être plutôt pensée comme la sage-femme. Mais la sage-femme, c'est pas du tout la même chose. C'est celle qui donne la vie. C'est celle qui permet l'accouchement, mais avec en même temps une histoire trouble, parce que les sages-femmes dans l'histoire, c'est aussi celles qui ont pratiqué les avortements clandestins.
Donc l'adjectif sage pour les femmes serait cantonné à ce rôle de la sage-femme. Il n'y aurait pas de femme sage.
En tout cas, c'est très intéressant de reprendre cette différence et de se rappeler que le personnage du sage qui donne une dignité à la vieillesse est un personnage masculin.
Je pense qu'effectivement, jusqu'à la vieillesse et la mort, aujourd'hui, dans, par exemple, notre époque de vieillissement, où les femmes vivent aussi plus longtemps, sont parfois cantonnées, assignées dans des lieux de fin de vie, et où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, on s'aperçoit avec vous que la question des femmes change tout, doit tout changer, y compris jusqu'à la mort. Merci beaucoup, Fabienne Brugère.
Merci, Frédéric Worms.
Matière à penser, les femmes changent tout, on l'a vu ce soir dans notre rencontre avec Fabienne Brugère, avec et grâce aussi à Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je Je vous donne rendez-vous demain pour notre cinquième rencontre autour des femmes qui changent tout avec Camille Froidevaux-Métry.